Chapitre 3. Trentor. Au début du 13e millénaire, cette tendance connut son apogée. Siège du gouvernement impérial depuis des centaines de générations sans interruption, placée comme elle l'était à proximité des régions centrales de la galaxie, parmi les mondes les plus peuplés et les plus développés industriellement de tout le système, Trentor pouvait difficilement ne pas devenir l'agglomération la plus dense et la plus riche que l'espèce humaine eût jamais connue. Le développement régulier et ininterrompu de la planète avait fini par aboutir au stade ultime de l'urbanisation. Une seule et unique cité, recouvrant les quelque 200 millions de kilomètres carrés de la surface de Trentor. La population, à son maximum, y dépassa largement les 40 milliards d'individus, lesquels se consacraient presque tous à l'administration de l'Empire, et encore suffisait-il à peine à accomplir une tâche aussi complexe. On se souvient que l'incapacité des derniers empereurs à assurer l'administration contribua pour une part importante à la chute de l'Empire. Chaque jour, des dizaines de milliers de vaisseaux apportaient la production de 20 planètes agricoles pour garnir les tables de Trentor. Sa dépendance envers les mondes extérieurs pour tout ce qui touchait à son ravitaillement en nourriture et en biens d'équipement vitaux contribuait à mettre Trentor chaque jour davantage à la merci d'une conquête par blocus. Au cours du dernier millénaire de l'Empire, d'innombrables révoltes se mirent à éclater avec une régularité implacable. Les empereurs qui se succédèrent durant cette période prirent conscience de cet état de choses, et la politique impériale se borna dès lors à protéger ce talon d'Achille que constituait Trentor. Encyclopédia Galactica. Gal ne savait pas si le soleil brillait, ni même à vrai dire s'il faisait jour ou nuit, et il n'osait pas le demander. La planète tout entière semblait vivre sous une carapace de métal. Le repas qu'on venait de lui servir était baptisé « déjeuner », mais il savait que plus d'une planète vivait suivant une division du temps standard qui ne tenait pas compte de l'alternance parfois malcommode du jour et de la nuit. La période de gravitation variait suivant les planètes, et il ignorait quelle était celle de Trentor. Il s'était empressé de suivre les panonceaux menant au solarium, mais il n'avait trouvé là qu'une salle destinée à y prendre des bains de soleil artificiels. Il s'y attarda quelques instants, puis regagna le hall du Luxor. « Où puis-je prendre un billet pour un tour de la planète ?» demanda-t-il à l'employé de la réception. « Ici même. » « Quand a lieu le prochain départ ?»«
Vous venez de le manquer. » »«
Il y en aura un autre demain. Prenez votre billet maintenant, nous vous garderons une place. »
« Ah. » Mais demain, il serait trop tard. Demain, il lui faudrait se rendre à l'université.
Il n'y aurait pas une sorte de tour d'observation, enfin, quelque chose de ce genre, reprit-il. Je veux dire, quelque chose qui soit à l'air libre.
Si, bien sûr. Je peux même vous vendre un billet, si vous voulez.
Mais attendez, il vaut mieux que je vérifie s'il ne pleut pas. L'employé manœuvra un interrupteur placé près de son coude et attendit que des lettres fluorescentes se dessinent sur un écran de verre dépoli. Gal déchiffra en même temps que lui le bulletin.
« Beau temps, » dit l'employé.
« Maintenant que j'y pense, je crois bien que c'est la saison sèche.
En fait, » ajouta-t-il sur le ton de la conversation, « l'extérieur, ça ne m'intéresse pas. Cela fait 3 ans que je n'ai pas mis le nez dehors. Vous savez, quand on a vu ça une fois... Tenez, voilà votre billet. Il y a un ascenseur spécial pour la tour au fond du hall. C'est même marqué dessus « Tour ». Vous le prenez ? Et ça y est. » C'était un de ces ascenseurs modernes mus par antigravité. Gal pénétra dans la cabine et d'autres passagers s'engouffrèrent avec lui. Le liftier manœuvra un interrupteur. Gal eut un instant l'impression d'être suspendu dans l'espace quand la gravité tomba à zéro, puis il reprit un peu de poids à mesure que l'appareil accélérait. Le mouvement se ralentit aussitôt, et Gal sentit ses pieds quitter le sol à mesure que l'appareil décélérait. Il ne put réprimer un petit cri. Le liftier s'écria : «
Coincez vos pieds sous la rampe. Vous ne savez pas lire ?
les autres l'avaient fait. Il le regardait en souriant tandis qu'il s'efforçait vainement de redescendre en s'aidant de la paroi de l'ascenseur. Ils avaient tous les pieds passés sous les barres chromées qui sillonnaient la surface du plancher, à 60 cm les unes des autres. Gall avait bien remarqué ces barres en entrant, mais ne leur avait pas prêté davantage attention. Une main secourable se tendit enfin vers lui et le ramena au sol. Il eut à peine le temps de bredouiller des remerciements que déjà l'ascenseur s'arrêtait. Gall s'avança sur une vaste plateforme baignée d'une lumière d'un blanc éblouissant qui lui fit mal aux yeux. L'homme qui, dans l'ascenseur, venait de l'aider à regagner le plancher, se trouvait juste derrière lui. « Ce ne sont pas les sièges qui manquent, » dit-il d'un ton aimable. Gall, bouche bée, finit par articuler « En effet. » Il se dirigea machinalement vers les bancs, puis s'arrêta. « Si ça ne vous ennuie pas, » dit-il, « je vais juste m'arrêter d'abord près de la balustrade. Je voudrais voir un peu à quoi ça ressemble. » L'homme lui fit un petit salut amical de la main et s'éloigna, tandis que Gall se penchait par-dessus le garde-fou qui s'élevait à hauteur d'épaule pour se plonger tout entier dans la contemplation du panorama. Il ne voyait pas le sol qui disparaissait sous l'enchevêtrement sans cesse plus complexe des constructions dues à l'homme. En fait d'horizon, où que portât son regard, il n'apercevait que le métal se découpant sur fond de ciel, donnant au paysage un aspect d'un gris presque uniforme. Et Gall savait que, sur toute l'étendue de la planète, il aurait trouvé un paysage identique. Rien ne bougeait, ou presque. Ça et là, quelques vaisseaux de plaisance dérivaient nonchalamment dans le ciel. Pourtant, il n'ignorait pas que, sous la carapace métallique de la planète, des milliards d'hommes poursuivaient sans relâche leurs activités. Il n'y avait pas trace de verdure, ni de terre. Pas un signe de vie autre qu'humaine. Quelque part, sur cette planète, il en avait vaguement conscience, se dressait le palais de l'empereur, au beau milieu de ses 25 000 hectares de sol naturel, où des frondaisons s'illuminaient d'un arc-en-ciel de fleurs multicolores. Une petite île de verdure perdue dans un océan d'acier. Mais de là où il était, Gall ne pouvait pas l'apercevoir. L'endroit pouvait tout aussi bien se trouver à 10 ou 15 000 kilomètres de là. Comment savoir? Il faudrait tout de même qu'il trouve le temps de faire ce tour de Trentor. Il poussa un profond soupir en se disant qu'enfin, il était sur Trentor, le centre de toute la galaxie, le point focal de toute activité humaine. Ne voyant pas les convois de ravitaillement atterrir, il n'avait pas conscience des faiblesses de ce monde. Il ne se rendait pas compte que seul un fragile cordon reliait ainsi les 40 milliards d'habitants de la planète au reste de la galaxie. Il admirait seulement cette prodigieuse réussite du génie humain, ce point final mis non sans un certain orgueil à la conquête d'un monde. Le regard vague, il finit par s'éloigner. Son ami de l'ascenseur lui désigna un fauteuil à côté du sien et Gall s'y assit.
Je m'appelle Jeryl,
se présenta l'homme en souriant.
C'est la première fois que vous venez sur Trentor?
Oui, monsieur Jeryl.
Je m'en doutais. Jeryl, c'est mon prénom. Trentor, ça vous fait toujours ça, pour peu que vous soyez un peu poète. Les Trentoriens, eux, ne viennent jamais ici, ils n'aiment pas ça. Ça leur tape sur les nerfs.
Sur les nerfs? Ah, au fait, je m'appelle Gall.
Et pourquoi ça leur taperait sur les nerfs?
C'est superbe.
Tout est question de point de vue, Gall. Quand on est né dans une alvéole, qu'on a grandi dans un couloir, qu'on travaille dans une cellule et qu'on prend ses vacances dans un solarium plein à craquer, monter à l'air libre avec le ciel au-dessus de sa tête pour toute perspective, c'est risquer la dépression nerveuse, tout simplement. On fait venir les enfants ici une fois par an à partir de 5 ans. Je ne sais pas si ça leur fait vraiment du bien. Je ne crois pas que ce soit suffisant. Les premières fois, ça les rend hystériques, et ils repartent en hurlant. En fait, c'est dès le sevrage qu'on devrait commencer,
et revenir une fois par semaine. « Évidemment, » reprit-il, « vous me direz que ça n'a guère d'importance. Qu'est-ce que cela peut bien faire s'ils ne sortent jamais? Ils sont heureux là en bas, et ils font marcher l'Empire. Tenez, à quelle hauteur est-ce que nous sommes d'après vous ?»«
800 mètres ?» dit Gall, en se demandant s'il n'avait pas l'air trop naïf.
Ça avait dû être le cas, car Jeryl se mit à glousser discrètement.
« Non, » dit-il, « à peine 150 mètres. »
« Quoi ?
Mais l'ascenseur a mis presque, je sais. Mais l'essentiel de la montée, c'était pour parvenir à la surface. Trentor est foré jusqu'à 1500 mètres sous terre. C'est comme un iceberg, en fait. Les 9 dixièmes sont invisibles. La ville descend même à plusieurs kilomètres de profondeur sous le fond de l'océan, au bord des côtes. Nous sommes si bas que la différence de température entre le niveau du sol et les fonds de 2 ou 3 000 mètres est utilisée pour fournir toute l'énergie dont nous avons besoin. Vous le saviez ?
Non. Je croyais que vous utilisiez des générateurs atomiques.
Dans le temps, oui. Mais ça revient moins cher.
Je veux bien le croire.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?
L'homme avait soudain pris un air inquisiteur. Vaguement côteleux.
« C'est superbe !»
finit par répéter Gall à court d'arguments.
« Vous êtes ici en vacances ? En touriste ? Pour visiter ?
Pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de visiter Trentor, c'est vrai, mais si je suis là, c'est pour le travail avant tout.
Hein ?»
Gall se crut obligé de donner quelques précisions.
« Je vais travailler au projet du docteur Seldon, à l'université de Trentor. »«
Cassandre Seldon ?»«
Non. Celui dont je vous parle s'appelle Harry Seldon. Vous savez, le psychohistorien. »« Je ne connais pas de Cassandre Seldon. »«
C'est lui. »« C'est Harry. »« Mais il y en a qui l'appellent Cassandre. »« C'est son surnom, quoi. »« C'est parce qu'il n'arrête pas de prédire des catastrophes. »
« Ah bon ?»
s'étonna sincèrement Gall.
« Vous devez bien le savoir. »
Jeryl ne souriait plus. « Vous venez bien travailler avec lui, non ?»«
Oui. Oui, je suis mathématicien. »« Mais pourquoi est-ce qu'il prédit des catastrophes ? Quel genre de catastrophes ?»«
D'après vous ?»«
Aucune idée. Désolé. »
J'ai lu les articles que le docteur Seldon et son groupe de recherche ont publiés. Il n'y est question que de théories mathématiques.
Dans ceux qu'ils ont publiés, c'est vrai.
Gall commençait à se sentir mal à l'aise.
Je crois que je vais retourner dans ma chambre maintenant, dit-il. Très heureux de vous avoir rencontré.
Jeryl lui adressa un vague salut de la main. Dans sa chambre, Gall trouva un homme qui l'attendait. La surprise l'empêcha d'articuler tout de suite l'inévitable « Que faites-vous ici ?» qu'il avait sur les lèvres. L'inconnu se leva. Il était assez âgé et presque chauve, et il boitait légèrement. Mais il avait les yeux d'un bleu éclatant, le regard vif. « Je suis Harry Seldon, » dit-il. Et Gall reconnut aussitôt ce visage dont il avait tant de fois vu la photographie.